Audiolib présente La nuit du faune de Romain Lucazeau, lu par Nicolas Matisse. Aux étoiles et aux divinités. La grâce immobile, sensiblement écrasante, qui découle du passage des civilisations, n'a pas la mort pour corollaire. Michel Houellebecq. 1. Quand elle aperçut le faune, la fillette lisait, bien assise sur son siège préféré, un vieux tronc couché, patiné par les ans, lustré et verdi par la mousse opiniâtre. Elle ne l'avait pas vu s'approcher, puis s'installer à côté. Elle ne se rendit compte de sa présence qu'après un certain temps et du coin de l'œil. Aussi, continua-t-elle son activité sans lui manifester la moindre attention. Voilà qui apprendrait à l'importun qu'on ne se mettait pas n'importe où sans demander la permission. Lui se trouva embarrassé et n'osa bouger la moindre griffe, le moindre poil, le moindre croc qu'il avait plein sa gueule de bête féroce. D'autant qu'elle l'avait, du coup, surpris dans une position gauche, plus qu'à moitié accroupie, les genoux trop hauts par rapport au reste du corps. La faute à leur assise, un peu basse pour lui, au contraire de sa voisine, dont les sandalettes balançaient au ras de l'herbe douce. Astrée, ainsi se nommait-elle, vivait ici. En ce début d'après-midi, entre la promenade et l'heure du goûter, elle jouait d'habitude à la balançoire. Mais parfois, comme aujourd'hui, elle s'asseyait sous l'antique saule pleureur, au feuillage si dense qu'il retenait, par cette magie climatique propre aux arbres, et même aux heures les plus chaudes, la fraîcheur de la mare. Elle ne se lassait pas de la même histoire. Un garçonnet, en costume de loup, traversait une mer jusqu'au tracé sinueux d'une forêt primaire emplie de peurs infantiles, et puis s'en retournait, plein d'usage et raison, vers sa chambre, un dîner, une présence maternelle. Ses couettes sages oscillaient sur ses oreilles, au rythme du balancement de sa tête. Gauche, droite, rien n'existant de par le monde que la linéarité du récit, que le bourdonnement des insectes aquatiques, que la brise légère qui, parfois, contrariait le passage des pages. Aucune raison, donc, de se laisser distraire par une apparition incongrue. Des monstres, on en voyait dans les livres et les rêves. Et à présent, au bord de l'étang, lieu idoine pour une telle rencontre. Son couvert changeait le jour en clair-obscur, faisait un mystère des branchages qui traînaient, touffus, entre l'eau et la boue, dans l'entrecroisement des plantes roselières et créait, dans les racines torturées du vieux saule, de profondes cachettes. Le surgissement d'un faune venait donc confirmer la satisfaisante continuité du monde et du récit. Pourquoi l'interrompre en cessant la lecture ? Lui, de son côté, n'avait depuis tout à l'heure osé tourner le regard vers elle. Resté tête baissée, attentif et gêné à force d'immobilité tendue, il paraissait à bout de patience. Ses oreilles s'agitaient, sans qu'il s'en rende compte. Son pelage vert-de-gris parcouru par moments de tremblements légers, de crispations nerveuses, qui faisaient jouer sous sa fourrure une puissance animale, et gâtait d'une note de musc et de sauvagerie le parfum tranquille des fleurs, de l'herbe foulée et du bois pourrissant. Lorsqu'elle eut fini de lire, il prit son courage à deux mains, tenta de lui faire signe, maladroit et timide, d'un raclement de gorge. Elle l'ignora, posa son livre sur ses genoux, se concentra sur le vol hasardeux des papillons et laissa son esprit vagabonder loin, très loin, à la surface de l'eau stagnante que le vif soleil du jour irisait entre les nénuphars. Elle patienta, attentive au bruissement des feuilles, effet du brassage constant appliqué à l'air de son petit monde artificiel, puis se leva et reprit sa marche. Le faune l'observa partir sans esquisser un geste. Son regard d'animal intelligent, aux yeux humides et doux, prit quand même une expression interloquée. Astrée ne se retourna pas, et quelques instants plus tard, oublia jusqu'à l'existence de cette apparition surgie à la périphérie de son champ de vision, et jusqu'ici, maintenue à la lisière de la réalité.